Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire et c'est hurler sans bruit. C'était Marguerite Duras qui avait écrit cela, il n'y a pas de doute. Vous écoutez Clotilde Seille et ses invités. C'est l'émission Un livre découvert qui commence sur les ondes de Canal M.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à l'émission, nous allons retrouver avec grand plaisir l'ami Michel Langlois qui va nous parler d'un livre. Il est déjà au bout du fil. Je reçois Catherine Voyer-Léger, c'est mon invitée du jour. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci d'être là. Nous parlerons beaucoup, notamment de la critique, puisqu'elle est l'auteur du livre de l'essai Métier critique. Et puis également à l'émission aujourd'hui, je vous lirai une lettre très touchante signée Jean Brière qui s'adresse à tous les bénévoles, puisqu'au moment où cette émission sera diffusée, nous serons en pleine semaine de l'action bénévole. Et nous, en parlant de bénévole, je vais recevoir François Côté qui nous parlera du livre de Jean Garon qui s'intitule « Pour tout vous dire ». C'est François Côté qui l'a lu chez Vues et Voix. En prévision de la venue d'Aline Apostolska à l'émission le 8 avril prochain, je vais recevoir Jacques, non pas Languirand, je vais recevoir Aline Apostolska au sujet du livre « Jacques Languirand, le cinquième chemin ». J'aurais bien aimé recevoir M. Languirand, mais non, il ne se déplacera pas. Et puis également, bien sûr, je terminerai l'émission sur quelques titres en rafale pour vous donner des idées de lecture.
Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Michel.
Allô, allô.
Comment ça va Michel Langlois?
Ça va super bien.
Ça va super bien.
Un peu congelé.
Un peu congelé, oui. Bah. Mais non, mais il paraît que demain ça va aller mieux. Ça va être assez arrosé, mais au moins ça va être plus chaud.
Tant mieux.
Bon, Michel, Célestin Louise, flic et soldat, de Thierry Bourcy, c'est le livre dont vous vouliez nous parler aujourd'hui, une brique, hein?
Eh oui, c'est une brique, mais en réalité, c'est un peu comme cinq tomes regroupés.
C'est ça, mais, cinq histoires
pour
différentes.
Nous, c'est pas le nombre de pages, mais c'est 25 heures de lecture.
Mm-hmm.
Oh, oh.
C'est plus, regardez, je l'ai en imprimé, c'est 1120 pages.
OK. C'est plus décourageant.
Et c'est combien, vous dites, en heure de lecture, Michel?
25 heures.
Oh boy, il faut que ce soit bien lu, cette affaire-là. Parce
que ce soit bien intéressant.
Est-ce que c'était la même voix qui lisait les cinq...
Tout du long.
Bravo, bravo. Gros contrat. Et ça, c'est à l'INCA hein, que c'est disponible.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on peut citer les cinq titres ou c'est pas la peine? Est-ce qu'on parle simplement de qui est ce personnage de Célestin Louise, flic et soldat?
C'est un flic dans le civil.
Oui.
Et à Paris. Et puis arrive la guerre.
La première, hein?
Le monsieur flic est mobilisé. Là, on parle de la guerre de 14-18.
C'est ça, la première, oui.
Ouais. Et puis, c'est comme cinq enquêtes du monsieur policier, soldat.
Oui.
Ça, c'est pour mettre un petit peu, comme je dirais, ben non, sinon, ça aurait été une espèce de documentaire historique, avec ce que ça peut avoir dans le mien, un documentaire historique.
C'est fou, parce que comme moi, je voyais écrit Célestin Louise, je m'étais imaginé que c'était une femme. Mais non, il s'agit bien d'un homme, effectivement.
Non,
parce que
ça.
Là, parce que Célestin, c'est son prénom.
C'est pas une belle fille.
Je sais que vous aimez ça, Michel. Je sais.
Mais
oui,
mais
oui.
Continuité, mais non, j'ai fait exception. Ce qui m'a attiré, c'est de lire ce volume-là, c'est d'en apprendre sur une guerre qu'on n'entend pas parler même souvent,
mm-hmm.
Et puis de savoir comment, disons, aller chercher des connaissances historiques.
Oui.
Et puis...
Mais quoi qu'avec le centième anniversaire là, de la guerre de 14-18, on en a quand même parlé un petit peu plus en ce moment, ouais, de cette grande guerre, comme on l'a appelée la première.
C'est vrai, mais quand même, moi, j'avais le goût d'aller voir ce qu'il y aurait dans ce livre-là.
Oui.
Et puis...
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là?
J'ai vraiment pas été déçu. Mais comme je te dis, c'est bizarre parce que j'ai lu, finalement, j'ai été attiré par la toile de fond du livre.
Oui.
Plus que par les enquêtes policières, mm-hmm, qu'on peut retrouver dans bien d'autres bouquins.
Oui, 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 oui.
Mais moi, ce que j'ai retrouvé dans ce livre-là, là, c'est ben, un bon mouton de bêtises humaines. Et Martyr Noir, comment est-ce que... Ouf, c'est gênant d'être humain quand tu lis cela.
Ah oui, hein.
Au niveau des stratégies, là, tu sais, des généraux, là, ensuite le mépris de la vie humaine, là, pour eux autres, les soldats, les poilus, là, c'était...
Ouais.
C'est comme des fourmis qu'on peut envoyer à l'abattoir, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Ce que j'ai été surpris aussi, c'est que les gars, ils ont fait, ceux qui étaient pas blessés, là, ils ont fait 4 ans au front.
Oui.
Tu comprends? C'est pas dire que tu fais 1 an, tu es démobilisé, puis tu es remplacé par d'autres. Non, excusez, tu fais 4 ans.
Dans les tranchées, dans la boue, avec les rats, avec...
Ouais,
le...
Dans des conditions difficiles à imaginer, avec notre confort à nous autres, là.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que c'est du drôle de camping sauvage, là, l'histoire.
Non, je m'excuse, Michel, c'est pas drôle, c'est votre façon de le dire.
Ben, qu'est-ce que tu veux? Il y avait rien, c'était dans le milieu des champs de bataille, avec des tranchées, de l'eau en masse, des rats, des cadavres.
C'est ça.
Et puis, un bruit de bombardement tout le temps. Autant
permanent.
Ton artillerie en arrière que tu ne savais pas si les canons mal alignés ne traverseraient pas la tête à 20 Allemands. Et puis, écoute, à un moment donné, quand les gars ils ont l'ordre d'attaquer les fantassins, parce que le Mont-Célestin, c'est sûr que c'est un fantassin. Je pense à la job la plus dangereuse, à part ramasseur de cadavres, là, au fond.
Oui.
Puis les autres, quand il y avait un peu de canonnage en arrière, il fallait qu'ils avancent à pied. Puis courir entre les balles pour espérer aller gagner 20, 25 mètres, 30 mètres, déplacer la ligne de front.
Oui.
Tu sais, c'est... T'arrêtes là... Moi, à un moment donné, j'ai arrêté mon lecteur une couple de fois, puis je me suis dit, faut essayer de me faire une idée, c'est quoi la vraie situation.
Oui, oui, oui.
Puis à côté de ça, madame, il y a l'état-major. Oh, pelaï.
Ah.
Oh, peut-être. C'est un peu comme quand j'étais à l'Institut. Tu vois, nous autres, on arrivait dans le corridor, ça sentait le steak, puis on arrivait au réfectoire, il n'y avait pas de steak. C'est qu'à l'état-major, eux autres, les uniformes étaient propres. La nourriture était bonne, puis ils donnaient des ordres, avec le plus parfait mépris des gars qui étaient au fond. Tu veux dire, c'est aussi, là, en termes de, je ne sais pas si c'était des classes sociales, mais... Oui, parce que les officiers, c'était plus instruits que les pauvres soldats.
Ah oui, comme toujours.
Toujours. C'est que j'ai trouvé ça d'une précision et d'une honnêteté, parce que c'est ça que je voulais. Je voulais apprendre comment ce que les gars, ils avaient fait de la guerre. Mais j'en ai eu eu pour mon 25 heures, croyez-moi. Puis j'ai pas eu le goût de lâcher en aucun moment. L'auteur a eu le talent de maintenir... C'est vrai qu'il y a eu les 5 enquêtes différentes, là, puis tu as le goût de savoir un peu, mais... Quand même, c'est plus l'amitié entre les 5 gars qui ont la chance de faire d'un bout à l'autre de la guerre.
C'était ce que je voulais vous demander. Il doit y avoir une belle aventure humaine au milieu de tout ça, parce que sinon, on tient pas le coup.
Il y a eu quand même, c'est ça, de l'amitié. Peut-être, il y en a un de la gang, c'est que c'est Sébastien Célestin qui l'avait arrêté comme pickpocket. Il était voleur dans le civil. Puis là, il est devenu son acolyte dans l'armée.
Ah oui.
Puis, il y a comme... Le jeune, lui, pendant les 4 ans qu'il a fait la guerre, un moment donné, il a compris qu'il va changer de métier dans le civil, qu'il retournera pas voleur, tu sais.
Non, c'est ça. Je m'aperçois, Michel, je m'excuse, on n'a pas cité le nom de l'auteur et ça me fatigue beaucoup depuis le début. Moi, je l'ai, moi. Il s'appelle Thierry Bourcy.
Oui.
Et si vous me permettez l'expression, je voudrais l'épeler pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors, Thierry comme Thierry avec un Y et Bourcy. B-O-U-R-C-Y, tout bêtement, Thierry Bourcy, avec un Y. Alors, voilà, oui, je vous ai interrompu, vous étiez parti pour nous dire quelque chose.
Bon, je pense que c'est un livre que j'ai pas peur de suggérer à des gens de lire. Si à un moment donné, tu as le goût un petit peu... Tu sais, moi, pour la lecture, c'est quasiment toujours une espèce... pas d'événements, là, mais de tu sors du quotidien, puis tu vas dans un autre univers.
Faut que ça vous apprenne quelque chose, Michel.
Ouais, ça apprend quelque chose, mais aussi ça te fait passer des moments dans une espèce d'autre époque, une autre époque, un autre univers.
Mm-hmm, exactement.
Puis moi je trouve ça fait partie de mon plaisir de mettre mes écouteurs avec mon lecteur, puis
ben oui.
Pareil, je change, tu sais, comme dans les science-fiction, on veut changer d'univers.
Exactement, Michel, exactement. Je voudrais préciser pour les gens à qui peut-être ça ferait peur, ces 1120 pages qui prennent je ne sais plus combien d'heures d'écoute, qu'on peut aussi prendre ces livres-là séparément.
Oui, oui.
C'est pour ça que je vais vous donner rapidement les cinq titres. C'est La Côte 512, L'Arme secrète de Louis Renault, Le Chapeau d'Amberville, Les Traîtres et Le Gendarme scalpé. Donc ce sont ces cinq titres-là qui font partie de l'ensemble dont vous nous parliez aujourd'hui, qui sont réunis donc dans un même livre qui s'intitule Célestin Louise, flic et soldat, de Thierry Bourcy, B-O-U-R-C-Y, Michel Langlois. On va se retrouver prochainement.
Mais quand tu parles des traîtres, là,
oui.
Ça aussi, c'est un autre aspect qui s'est passé à la dernière guerre,
mais pendant
toutes les guerres. C'est un complot pour des généraux français qui vendaient des armes aux Allemands.
Est-ce que je peux vous recommander un livre que je viens de finir?
Oui.
Parce que c'est pas tellement sur la guerre, on n'est pas sur les champs de bataille, mais il en est forcément beaucoup question. C'est Le Collier rouge de Jean-Claude Ruffin. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et ça, c'est une toute petite plaquette j'imagine qu'il doit s'écouter en quoi? 1h30, 2h de temps. Ne ratez pas ça. Le Collier rouge de Jean-Claude Ruffin.
Ah, je vais aller voir ça, certain.
Voilà.
Il me semble que l'auteur, ça me dit quelque chose.
Mais oui, il a été pris Goncourt avec, Rouge Brésil, notamment. C'était en 2001, il me semble. En tout cas, c'est pour ça que le nom vous dit quelque chose. Entre autres, il n'a pas écrit que Rouge Brésil et Le Collier rouge. Je vous laisse là-dessus, mon ami, parce que vous savez qu'on a d'autres invités à l'émission. Alors, on se retrouve prochainement, Michel.
Au plaisir.
Bye, bonne fin de journée.
Merci.
L'invité spécial.
Et notre invitée, c'est aujourd'hui Catherine Voyer-Léger, que je lis régulièrement, Catherine, lorsque j'anime l'émission au quotidien, parce que vous êtes, entre autres, chroniqueuse au Journal de Montréal. Vous êtes aussi une ancienne blogueuse, parce que pour l'instant, vous ne bloguez plus.
En effet.
Mais vous êtes aussi chroniqueuse à Radio-Canada et vous êtes surtout, et alors ça, c'est à cela que vous tenez beaucoup, essayiste.
Oui.
Bonjour voilà. Et merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci de votre invitation. Je suis enchantée d'être ici.
Et je vous ai invitée parce que j'ai été très intriguée par ce livre que vous avez signé, qui s'intitule « Métier critique ». Et alors, je suis tombée là-dedans, mais alors vraiment comme dans un roman d'histoire. je me suis dit, ça a dû lui demander, c'est tellement fouillé, ça a dû vous demander beaucoup de recherches. Et finalement, vous me disiez que non, ça s'est fait rapidement parce que c'est un livre que vous portiez depuis longtemps.
Mais en fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur plusieurs années. Oui. Donc évidemment, ça semble moins lourd que quand on se plonge dans un projet pour quelques mois. Et c'est vrai que l'écriture a été assez rapide aussi parce que quand on écrit sur les médias, il faut être assez condensé dans le temps. C'est un milieu où les choses changent extrêmement vite. Donc, si on s'étire dans l'écriture, on est toujours en train de réécrire, en fait, parce qu'il y a des nouveautés, etc. Donc, il faut se dire, là, on l'écrit, un jour, c'est fini et ça sort. Et bon, évidemment, c'est daté après quelques années, mais on en fera une deuxième version.
Alors, il y a ces mots que l'on trouve au début de votre livre. Il est rare qu'on entende de bons mots sur des critiques. Voyez cette introduction comme un avertissement. Le présent ouvrage en contient plusieurs.
Oui.
Parce qu'il ne faut pas croire que Catherine Voyer-Léger écrit contre la critique. Vous aimez la critique. En fait, vous la soutenez. Le problème, c'est qu'elle est, vous le pensez, en relativement mauvais état. Quoi.
Oui, en fait. Mais c'est vrai que ce projet-là est né d'abord comme une défense de l'acte critique. Parce que j'ai été très frappée par la prégnance de certains, des images, comme l'idée que les critiques sont des ratés.
Ben oui.
Et maintenant, avec les médias sociaux, on lit le public encore plus souvent qu'avant. Et je voyais cette image-là revenir. Mm-hmm. Les gens s'adressent aux critiques en leur disant, de toute façon, vous êtes des ratés. Et moi, je trouve ça extrêmement violent, en fait, comme lieu commun. Et moi, je trouve que c'est très important, la critique. Au contraire, moi, si je peux reprocher quelque chose aux médias actuellement, c'est de ne pas suffisamment faire de critique.
Vous en avez fait vous-même, de la critique?
Un petit peu comme bénévole sur un site qui s'appelle La Recrue du mois, qui parle de littérature. Et ensuite, j'ai cessé parce que moi, je travaille dans le milieu de l'édition, ma job de jour. Et donc, ça me mettait dans une position un peu délicate.
Donc,
j'ai cessé et je me suis mis à m'intéresser aux critiques eux-mêmes.
Citation de Daniel Mendelsohn que j'ai tellement aimé et que vous citez bien sûr dans votre livre. Les critiques sont avant tout des gens qui aiment les belles choses et craignent que ces belles choses ne soient brisées.
Oui, bien, c'est effectivement, c'est un très beau livre, hein, ce livre de Daniel Mendelsohn. Ouais. Je ne sais pas s'il existe en version.
Je n'ai pas noté le titre. Est-ce que vous vous souvenez du titre?
En français.
Attendez, je m'excuse, je vous pose une colle.
Oui, mais c'est Si beau, si fragile, en fait. Voilà,
c'est
en lien direct avec. Et donc, c'est une série de chroniques. C'est un très grand critique. Et en fait, moi, ce qui m'importait là-dedans, c'est de faire voir comment. C'est pas un métier facile, la critique, premièrement, malgré tout ce qu'on en pense. Dans l'état des médias actuellement, c'est pas un métier particulièrement bien rémunéré. C'est un métier qui demande une énergie folle. Personne ne fait ça si on n'aime pas les arts profondément.
Exactement.
On peut pas investir tout ça dans un domaine si on n'est pas fou de ce domaine-là, que ce soit le théâtre, la musique ou la littérature.
Vous n'avez pas l'impression pourtant qu'il y en a qui font ça et qui sont pas forcément des passionnés?
En fait, ce qu'on voit beaucoup apparaître récemment, c'est des gens qui sont plutôt des passionnés du star system, ce qui est autre chose. Et là, ça, c'est un glissement auquel on assiste dans les dernières années, c'est-à-dire que de plus en plus, le journaliste culturel s'intéresse surtout au vedettariat, et on sent bien que certains journalistes en souffrent et certains autres journalistes sont tout à fait à l'aise.
Ouais.
Donc, une des choses qu'on a vu apparaître dans les dernières années, c'est des journalistes qui prennent des selfies d'eux-mêmes avec des gens qu'ils interviewent. Ce qui est un geste qui aurait été inimaginable, vous êtes journaliste vous-même, il y a quelques années à peine. Il y a une règle en journalisme, c'est qu'on garde un minimum de distance avec son sujet, y compris si c'est un sujet culturel. Donc, le fan en nous devrait être un peu plus discret quand on est dans sa posture de journaliste. Et là, il y a un glissement. Mais je pense que, de façon générale, et c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là aussi, les individus sont de très bonne foi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de m'attaquer aux individus qui font le travail, parce que je trouve que c'est assez vain, mais de réfléchir au contexte dans lequel ils travaillent.
Alors, ce métier-là, vous l'aimez, vous le défendez, mais quelque part, il vous fâche quand même.
Oui,
je ne parle pas d'individus, je parle du métier. La façon de le faire en ce moment.
Exactement, parce que je trouve, entre autres, qu'on ne parle plus des œuvres, en fait. Les œuvres sont très peu présentes. J'étais contente d'entendre votre collaborateur parler ainsi d'un livre, parce que c'est vrai qu'on l'entend peu. Souvent, quand dans les grandes émissions, on va recevoir des auteurs, on parle davantage de leur parcours, d'eux, mais très peu du livre qu'ils viennent de publier, en fait. Et moi, je pense qu'on devrait remettre l'œuvre au cœur du travail des journalistes culturels. Donc ça, c'est une chose qui me... C'est une des choses qui me choque, en fait. Je pourrais aussi donner comme exemple de choses qui me choquent le fait qu'il y a tout ce problème de relations un peu trop de proximité entre certaines industries culturelles et le monde des médias. On pense à l'industrie du cinéma, entre autres. Donc, vous savez, on va inviter des journalistes en voyage à Los Angeles, par exemple, pour faire ce qu'on appelle des pré-papiers. C'est-à-dire, c'est pas un papier qui critique, c'est un travail où on va faire une entrevue plutôt sympathique, etc. Et à un moment donné, on se rend compte que s'il y a des critiques trop négatives, les grands studios vont faire des menaces, en fait. Dire vous avez des critiques négatives, on ne vous invitera plus pour rencontrer Woody Allen ou Brad Pitt. Donc, je trouve ce type de comportement assez inadmissible.
Surtout qu'il y a beaucoup de gens, et je l'ai lu d'ailleurs quelque part dans votre livre, finalement, qui confondent souvent un pré-papier avec une critique et qui s'imaginent que c'est une critique et qui vont dire, d'ailleurs, vous le dites à un moment donné, ils vont dire à leur ami, si c'est un ami qui est critique, « Ah, dis donc, j'ai lu ce que tu as écrit récemment comme critique. Attends, j'ai pas fait de critique sur... »
Je pense qu'une des grandes faiblesses du milieu des médias, c'est qu'on prend trop pour acquis que le public comprend comment les médias fonctionnent. Et moi, ce que mes enquêtes me prouvent et ce que mes discussions me prouvent, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, pour le public, si un artiste fait la une du cahier art du samedi, l'interprétation qu'on en fait, c'est que l'équipe de journalistes nous dit « voici la nouvelle prioritaire ». Mais en fait, ce n'est pas le cas. Le choix de la une n'est pas fait par les journalistes, premièrement, et il est beaucoup plus fait sur des critères commerciaux, par exemple, donc ce qui va attirer l'attention, que sur des critères liés à la qualité esthétique d'une proposition. Et donc, dans ce sens-là, je trouve qu'on prend pour acquis que le public sait tout cela. Mais le public, ce n'est pas sa spécialité. De la même façon que quand on va au garage, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Quand le grand public ouvre un journal, il ne comprend pas comment ce journal-là a été conçu, pensé. Ce n'est pas son métier. Donc, je pense que comme spécialiste des communications, il faut qu'on s'interroge aussi à un moment donné sur l'image qu'on renvoie et l'importance qu'on donne à certaines choses.
J'ai l'impression aussi que lorsqu'on parle d'un bon critique, souvent on parle d'art relativement élitiste, alors qu'on parle plutôt de journalisme ou de chronique ou de choses comme ça pour l'art, entre guillemets, beaucoup plus populaire et commercial, alors qu'eux se prétendent également critiques. Vous en pensez quoi?
Effectivement, là, il y a une zone de flou un peu.
Puis c'est flou, hein?
Les gens, la façon dont les gens se dénomment eux-mêmes, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les appelle critiques. Ils veulent être nommés chroniqueurs, par exemple, parce qu'ils veulent surtout pas... Ils voient dans critique la notion d'autorité. Mais en même temps, vous avez beau dire que vous êtes chroniqueur, si vous avez un micro et beaucoup de gens qui vous écoutent et que vous dites « ceci était un bon moment à passer », vous venez quand même d'avoir une influence.
Exactement.
Donc, et effectivement, je trouve assez dommage, quoi que les choses changent, mais moi, je pense qu'il y a de la critique dans le sens le plus complet du thème, c'est-à-dire dans le sens de l'analyse de l'œuvre à faire avec des œuvres très populaires.
Des choses
extrêmement intéressantes, entre autres, à dire sur la télévision. Je veux dire, il se passe à la télévision des choses fabuleuses. Malheureusement, je trouve que les chroniques de télévision sont assez peu remplis d'analyse. On est dans autre chose, on raconte les histoires, on se pose des questions sur la suite de l'intrigue. Moi, j'aimerais, par exemple, qu'on s'interroge sur l'importance du secret dans les téléromans actuellement. Je trouve que tous nos téléromans sont traversés par la notion du secret de famille, entre autres. Et je trouve qu'il y aurait là une analyse, une mise en contexte à faire qui serait passionnante.
Est-ce que... Bon, le métier de critique est indispensable. Pourquoi?
Parce que l'art, c'est pas juste un divertissement. L'art, c'est aussi une façon d'exprimer une idée sur le vivre ensemble, sur la société. Et pas juste les thèmes, même l'esthétique. La façon de raconter une histoire change d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre. Le rôle de la critique, c'est de nous permettre de voir l'œuvre sous d'autres points de vue. Parce que, bon, moi, je suis pas une grande cinéphile. Je vois peut-être 5 à 10 films par année, disons. J'ai pas les outils pour comprendre qu'une œuvre est vraiment différente de ce qui se fait ailleurs. Un critique a les outils. Un critique devrait être capable de me dire « Voici une œuvre qui dit quelque chose différemment de ce qu'on entend habituellement. » Et donc, me donner des clés ou allumer ma curiosité pour me dire « Là, il se passe quelque chose de différent. » Ou bien, au contraire, moi, j'ai pu passer un très bon moment au cinéma un samedi soir, mais que le critique me dise « On a vu le même type de film 12 fois cette année. C'est une redite, en fait. Et moi, je m'attends à ça de la critique, c'est-à-dire un regard plus spécialisé que le mien, de la même façon que je m'attends d'un journaliste économique qui comprenne mieux les REER que moi, en fait.
C'est
exactement du même ordre.
Mais pourquoi ça nous agresse? Pourquoi les critiques nous énervent-ils, même quand on n'est pas concerné? Si, par exemple, et là aussi, vous le citez, vous le dites, lorsqu'un de nos artistes préférés est touché par un critique, c'est comme si ça nous touchait, nous. Pourquoi?
Parce qu'on a un lien aux arts qui est extrêmement intime. C'est aussi lié à notre identité. Donc, on fait une association, en fait, beaucoup trop fusionnelle entre nos goûts et notre personnalité. Moi, je parle de mon exemple avec Rock Voisine quand j'avais 10 ans. J'ouvre un peu le livre là-dessus. Mais c'est ça, quand Nathalie Petrovski avait critiqué assez vertement Rock Voisine, à 10 ans, je l'ai vécu comme si on me disait qu'on ne m'aimait pas, en fait. Ne pas aimer ce que j'aime, c'était ne pas m'aimer. Mais c'est cette lecture-là qui est mauvaise. Parce que ne pas partager les mêmes goûts, ne pas avoir la même lecture, d'un événement culturel, c'est pas porter un jugement sur les individus, c'est réfléchir et discuter. Mais effectivement, c'est agressant. Il faut dire qu'en ce moment, on a comme le choix entre deux choses. Soit il y a de la critique très beige, presque anonyme, dans le sens qu'on reconnaît pas les voix, ou bien on est dans la critique spectacle, où là, c'est des individus très forts en gueule qui s'expriment, justement, Nathalie Petrovski est un bon exemple de ça, mais elle est loin d'être la seule, avec beaucoup, beaucoup d'une certaine agressivité quand ils sont négatifs. Et là, on se sent vraiment heurté. Et c'est correct. Moi, ce contre quoi j'en ai, c'est contre le fait qu'on appelle à la fin de la critique. On peut critiquer les critiques, mais il faut de la critique.
Mais est-ce que la bande des six, qu'on appelait beaucoup la bande des bitches à l'époque, est-ce que ça a été la dernière vraie émission de critique?
Ça a été, en tout cas, ça a bizarrement à la fois cristallisé une forme de critique, qui est la critique généraliste spectacle, donc des chroniqueurs qui font de tout, qui voient de tout, qui sont pas des spécialistes, et ce côté fort en gueule dont on parlait. Et en même temps, c'est probablement la dernière fois, au Québec en tout cas, où on a vu des artistes qui venaient rencontrer les critiques. Ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus un endroit où l'artiste et le critique peuvent discuter. À Noël, la Presse Plus, et je les félicite, ont fait rencontrer Luc Boulanger, leur critique de théâtre, et Fabien Cloutier, le dramaturge, parce que Luc Boulanger avait une critique assez négative du dernier spectacle de Fabien Cloutier. Ça a donné une entrevue passionnante où on discutait de théâtre et de vision du théâtre. Souvent, les journalistes me disent « les artistes vont refuser de venir rencontrer les critiques ». Mais ça, c'est pas vrai. Les vedettes vont peut-être refuser. Mais des artistes prêts à parler avec des critiques, moi, j'en connais plein. Je peux vous en fournir des listes. Les gens vont être contents, justement, de pouvoir venir débattre de c'est quoi leur démarche artistique, puis pourquoi pour eux dire telle ou telle chose de telle ou telle façon, c'est important. Et le critique aura son point de vue et on va apprendre des choses. On lit encore les journaux pour apprendre des choses.
Catherine Voyer-Léger, je rappelle à nos auditeurs qu'on est en train de parler de votre livre « Métier critique ». Est-ce qu'il y avait un petit bout que vous aimeriez nous partager, nous lire?
J'ai un peu bizarrement vous lire un extrait de la conclusion, mais je crois en même temps c'est un court extrait, mais ça donne le ton.
S'il vous plaît, merci.
Je crois qu'il y a deux adages populaires qu'il faudrait mettre à la poubelle. Le premier veut que les goûts ne se discutent pas. Pourquoi les goûts ne pourraient-ils pas se discuter? À cause de ce deuxième adage qui veut que tous les goûts soient dans la nature. Ainsi, les goûts ne se discutent pas parce qu'ils sont naturels. C'est faux. Le goût est un phénomène profondément culturel, quelque chose qui est souvent partagé entre un groupe donné, qui vient de l'éducation, du milieu, des influences, qui s'apprend et se désapprend. Ce faisant, ça se discute tout à fait. La critique ne serait-elle qu'une affaire de goût, qu'elle aurait encore sa raison d'être comme dialogue autour des raisons qui motivent nos préférences? Mais si elle n'était qu'une affaire de goût, ce qu'elle est doucement en train de devenir, on pourrait comprendre qu'on demande à n'importe qui, de la vedette de l'heure à Monsieur et Madame Tout-le-Monde dans un vox pop, d'en faire son affaire. Comme j'ai tenté de le démontrer dans cet ouvrage, la critique, comme l'art d'ailleurs, ne devrait pas simplement être une affaire de goût.
Est-ce que les critiques vont disparaître?
Peut-être. Peut-être. J'avoue qu'en ce moment, je suis un peu dans un moment déprimé. J'ai des phases. Ça monte, ça descend. Mais est-ce que c'est-à-dire, les médias sont en refonte complète. La critique est associée aux médias. Donc, il faudra voir qu'est-ce qui arrive avec nos médias et quelle place le journalisme culturel et la critique arrivent à prendre dans cette refonte. Mais ce sera sans doute passionnant à observer.
Catherine Voyer-Léger, qui a donc écrit « Métier critique » et je la recevais aujourd'hui à l'émission « À livre découvert ». Ne ratez pas ce bouquin-là. Je vous remercie beaucoup d'être venue jusqu'à nous parce que je dis que vous habitez Ottawa quand même.
Oui.
Hein? Alors, et spontanément, vous avez dit oui. Je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie de l'invitation. Merci.
Au revoir.
Écoutez « À livre découvert » avec Clotilde Seille et ses invités.
Cette émission que je vous présente aujourd'hui, elle a été enregistrée le 25 mars dernier, dans le but d'être diffusée donc en ce 15 avril, au moins pour sa première diffusion, puisque vous savez qu'on la passe en reprise assez régulièrement sur les ondes de Canal M. Et en ce 15 avril, nous sommes en plein milieu de la semaine de l'action bénévole qui va se poursuivre jusqu'au 18 avril. Et spécifiquement pour marquer cette semaine-là et pour saluer le travail des bénévoles associés aux organismes comme Vues et Voix, mais aussi comme l'INCa, dont la mission est d'enregistrer des livres adaptés pour répondre aux besoins de personnes souffrant d'handicap visuel ou autre forme d'handicap, eh bien j'ai reçu en mars un courriel de Jean Brière, qui est aveugle et qui m'informait qu'au début du mois d'avril, il adresserait une lettre de remerciement aux bénévoles via Les Quotidiens du Québec et qu'il lui faisait plaisir de me la faire parvenir en primeur afin que je la partage avec les auditeurs de Canal M et les bénévoles également de Vues et Voix dans sa globalité. Alors, À l'heure où j'enregistre ces mots, le 25 mars, j'ignore complètement quels sont les quotidiens qui auront relayé cette lettre touchante écrite, je vous le rappelle, par Jean Brière de Québec et dont je vais vous faire la lecture comme je le lui ai promis. Ce que je souhaite, c'est que beaucoup de quotidiens auront relayé cela. Donc voici cette lettre de Jean Brière. « J'adore la lecture, dit-il. Je lis des biographies, des romans, des essais, des magazines, sans oublier les journaux. Je lis souvent et partout, en marchant ou en me rasant. Je lis même dans l'obscurité. Une explication s'impose, je suis aveugle. En fait, mes livres sont des enregistrements sonores réalisés par des femmes et des hommes qui lisent bénévolement toutes sortes de documents au profit des personnes incapables de lire l'imprimé. À l'occasion de la semaine de l'action bénévole débutant le 12 avril 2015, donc, je désire saluer et marquer d'un signet géant le travail admirable des milliers de volontaires qui lisent inlassablement devant un microphone des textes espérés et avidement écoutés par autant de personnes vivant avec un handicap visuel ou une autre déficience perceptuelle partout au Québec. Chaque semaine, les 13 cabines d'enregistrement de vues et voix à Montréal accueillent 350 bénévoles qui produisent d'une part des livres parlés distribués principalement sous forme de disques audio numériques par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et d'autre part des extraits de journaux et magazines diffusés par le Canal M via la télé numérique ou le site internet de Vues et Voix. 80 bénévoles montréalais œuvrent également à l'enregistrement de livres et périodiques dans les 3 studios de la Bibliothèque d'Inca qui les fournit à ses abonnés francophones de tout le Canada. Voici quelques chiffres éloquents. Les bénévoles de Vues et Voix ont enregistré 15 000 titres depuis 1976, tandis que ceux d'Inca en ont produit 6200 depuis 1968. Ces organismes sans but lucratif procurent les documents sonores gratuitement aux personnes admissibles qui les consultent au moyen d'un appareil spécialement adapté. La ville de Québec n'est pas en reste. En effet, Audiothèque emploie 60 collaborateurs bénévoles voués à la reproduction sonore de journaux et revues mis à la disposition de ses usagers par le truchement du téléphone. Les bénévoles ont en commun le dévouement, l'enthousiasme, la passion de la lecture, une diction impeccable, mais surtout une voix chaleureuse, souvent reconnaissable, qui incite à la découverte de l'ouvrage. À titre d'auditeur chevronné, je préfère l'incomparable voix humaine aux synthétiseurs vocaux qu'utilisent les personnes handicapées de la vue, par commodité. La voix du bénévole possède aussi une pérennité en ce sens qu'elle captivera longtemps un vaste lectorat. Occasionnellement, j'écoute avec fascination des livres enregistrés il y a 40 ans. Enfin, et ce n'est pas la moindre de ses qualités, la voix du bénévole est amicale et peut éventuellement représenter une compagne, même fugace, dans la solitude du lecteur vivant avec une déficience visuelle. Mesdames et messieurs, votre bénévolat revêt un caractère inestimable pour les personnes handicapées dont je me fais humblement le porte-parole dans ces lignes. Si la lecture est une amitié, comme l'écrivait jadis Marcel Proust, vous êtes certainement nos plus chers amis dans notre quête de littérature. Vous contribuez gracieusement à garder bien ouverte notre fenêtre sur le monde. Je conclus par un vibrant merci et demeure dans l'espoir d'entendre encore longtemps vos voix dans mes haut-parleurs. Jean Brière, Québec.
Vous les griots, vous les artistes, d'ici et d'ailleurs, nos compagnons du tour de piste, nos amis, nos sœurs, tous les pierrots des nuits sans lune, dont les bonheurs, les infortunes, ont fait les grands soirs de nos vies. Bravo et merci. Vous avoir à bord du navire, pour nous c'est de l'or. Comme un enfant qui vient d'ouvrir la main au trésor. Vous accrochez sur nos silences l'arc-en-ciel de vos différences qui s'allume au cœur de la nuit. Bravo et merci.
Le bénévole du jour.
Oui, le bénévole du jour, c'est François Côté. François, ça vous a touché cette... Bonjour d'abord, excusez-moi.
Oui, bonjour.
Ça,
non,
c'est parce qu'on est, tous les deux un petit peu touchés par les propos de M. Jean Brière, hein, par ce papier-là qu'il a fait paraître dans les journaux. Je précise que cette émission-là, nous l'avons enregistrée il y a déjà quelques semaines. À ce moment-là, les journaux ne l'avaient pas encore reçu et il avait eu la gentillesse de nous l'envoyer en primeur. C'est pour ça que je l'avais lu, mais c'est touchant. Hein?
Ah, vous m'avez fait le privilège de lire. Et puis, ouais. C'est touchant parce que je parlais à quelqu'un tout à l'heure et on parlait du bénévolat comme ça, et puis on travaille pour rien. Mmh. Mmh. On ne travaille pas pour rien. On le sent plus profond de nous que l'on ne travaille pas pour rien. Et ces lettres, ce témoignage de M. Brière nous prouve que justement, on ne travaille pas pour rien.
Comme je le dis toujours à nos bénévoles, quand vous rentrez en cabine pour lire, dites-vous toujours que derrière votre micro, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens Brière qui comptent sur nous. Puis, la preuve, quoi.
Absolument. Et puis, moi, dans ma jeunesse, j'ai fait de la radio. Et puis, comme on fait maintenant. Puis la radio, c'est ça, on est tout seul.
Ouais.
Mais on n'est pas tout seul.
Non, exactement.
Et voilà.
Exactement. On se sent tout seul, mais c'est pas vrai.
On n'est pas tout seul.
François Côté, c'est votre première fois, c'est votre première visite à l'émission Un livre découvert. Merci d'avoir accepté.
Ben, ça me fait plaisir. Je suis honoré parce que je savais pas que c'était dans un cadre aussi détendu, mais aussi très... très professionnel, alors.
Merci beaucoup. De quel livre avez-vous envie de nous parler?
Moi, j'ai eu le plaisir, il y a quelques mois, de lire l'exercice autobiographique, comme il le dit, de Jean Garon.
Oui.
Et qui s'appelle, le livre s'appelle « Pour tout vous dire », avec le sous-titre « Ou le devoir de raconter ».
Alors, est-ce que c'est vrai qu'il dit tout?
Il dit tout ce qu'il voulait nous dire, et également, il raconte.
Ah oui, c'est ça.
Donc, le livre est doublement intéressant parce qu'il nous livre le fond de sa pensée, et c'est profond, quelquefois. Et également, il raconte. Il raconte une histoire qui est l'histoire du Québec depuis 1955.
Ah oui.
Et jusqu'à sa mort, malheureusement, le 1er juillet. C'est assez ironique récent, qu'il soit mort le 1er juillet, l'an dernier.
Oui, c'est vrai,
Et voilà, ce n'est pas un livre littéraire. C'est un livre qui se lit comme une bonne chronique.
Oui, mais on sent que c'est lui qui l'a écrit,
vous savez... Oui. Qu'il se soit fait aider, je ne sais pas. De toute façon, ce n'est pas intéressant. Non, ce qui est intéressant, c'est le livre.
Oui, c'est ça. Hein? Alors, parlez-nous de ce livre-là. Qu'est-ce qui vous a touché là-dedans? Avez-vous aimé ça, d'abord, le lire?
J'ai adoré le livre. Moi, je ne suis pas très roman. Hein? Je ne suis pas très attiré par les romans. Et par contre, une biographie ou une autobiographie d'une personne intéressante est, pour moi... en partant intéressante. Ce que j'ai aimé, c'est revoir cette partie d'histoire du Québec et du Canada, parce qu'on parle du Canada, mais également la méthode Garon. C'est-à-dire que c'est un individu qui avait donc des principes, qui savait comment s'organiser et qui, tout le long, au long de sa carrière, a mis en pratique ce qu'il voulait, ce qu'il voulait faire.
Il a été ministre de l'Agriculture.
Il a été surtout ministre de l'Agriculture. Il a été très brièvement ministre de l'Éducation dans le dernier gouvernement Parizeau, Parizeau. Mm-hmm. Et après ça, même s'il a servi sous Pierre-Marc Johnson et Lucien Bouchard, il n'était pas ministre.
Vous sembliez me dire que les premiers propos de son livre sont intéressants. Ils font un petit peu référence à ces nouveaux mouvements estudiantins encore là. Ben, au moment où nous avons enregistré, ça venait de commencer. Vous me disiez ça tantôt.
Ben, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour Jean Garon. Même si je ne suis pas du Québec, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour un bonhomme coloré.
On ouvre une parenthèse, vous vivez en Ontario.
Oui, l'Ontario francophone.
Ben oui, francophone, alors, bien sûr.
Écoutez, dans son introduction, il nous dit qu'il a été inspiré, et c'est ça qu'il a décidé à écrire ses mémoires, ce qu'il appelle l'exercice biographique, autobiographique. C'est le mouvement étudiant de printemps 2012 qui l'a inspiré devant ce qu'il dit être un gouvernement corrompu et ceux qui tirent les ficelles. Fermons la parenthèse. Dans les premières pages de son livre, il nous décrit ce qu'est être. Qu'est-ce que c'est qu'être un militant? C'est d'abord d'avoir des convictions, d'avoir du courage. Et un peu plus loin, il nous dit, vous savez, en politique, les convictions, ce n'est pas tout. Il faut être capable de les exprimer et de les défendre. Là aussi, le militantisme est presque un passage obligé. C'est en faisant du recrutement, en vendant des cartes de membres, en organisant des assemblées de village que j'ai appris à faire de la politique. Il faut apprendre à persuader une personne à la fois, ou deux ou trois, avant de prétendre convaincre le plus grand nombre. Il faut s'être cassé la gueule quelquefois en assemblée. Avant de savoir vraiment parler pour être compris, il faut avoir divergé d'opinion avec ses alliés sur des orientations et des stratégies pour savoir quand un compromis est nécessaire et possible. Or, moi, je dois avouer qu'au printemps 2012, je n'ai vu ni militantisme, ni vente de cartes de membres, ni ci, ni ça. Et je n'entends pas que ça se passe actuellement, que ça se soit passé. Alors voilà, j'ai trouvé assez ironique. Mais effectivement, ce qu'il dit, c'est son livre.
C'est son livre, c'est ça.
Et c'est comment il a mis en pratique ses convictions et son courage.
Par rapport au fait, François, qu'on n'ait pas réussi à faire l'indépendance ici au Québec suite au référendum, est-ce que, parce qu'à un moment donné, moi j'ai lu, je suis triste parce qu'on n'a pas fait l'indépendance du Québec, je ne suis pas amère. Est-ce qu'on le sent, on sent vraiment qu'il n'y a pas d'amertume? J'ai toujours un petit peu de mal à croire ça, quand un homme politique dit qu'il y a...
Non? Écoutez, si on se reporte à René Lévesque, il était triste, il était malheureux, mais bon, je ne crois pas qu'il était amer de ne pas avoir fait l'indépendance. Par contre, j'ai senti une certaine amertume à l'égard, donc, des gens qu'il a côtoyés et que, malheureusement, il estime qu'il les a déçus.
Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs, pour finir, François? Pourquoi est-ce qu'ils devraient lire ce livre-là? Le livre, je le rappelle, Jean Garon, pour tout vous dire, que vous avez lu bénévolement ici.
Alors, j'ai dit, c'est un excellent récit. Il est un excellent raconteur.
OK.
Il y a un passage sur les heures de boule.
Les heures de boule? De pétanque?
Non. Bulldozer. Apparemment, sous l'ancien... C'est que sous l'ancien régime, est-ce que j'ai le temps de l'expliquer?
Prenez-le, ça me fait plaisir.
Mais c'est un raconteur, il raconte les heures de boule. C'est qu'avant que le Parti québécois vienne au pouvoir, en 1976, il y avait l'alternance des bleus et des rouges.
Oui.
Et puis, pour soutenir les agriculteurs, le gouvernement payait pour chaque agriculteur ou cultivateur qui avait besoin du travail d'un bulldozer sur sa ferme, payait un certain nombre d'heures de boule. Alors, l'entrepreneur était payé, je ne sais pas, 100 $ et le gouvernement lui donnait 50 $ et le fermier lui donnait 50 $
Okay.
Maintenant, l'entrepreneur, c'était qu'il y avait 6 ou 7 000 heures de quota par année, c'était payant, mais il était toujours du côté du parti au pouvoir. Alors, pour le fermier qui payait toujours le même prix, lui, qu'est-ce qu'il voyait? C'est que lorsque c'était les rouges au pouvoir, c'est un entrepreneur rouge avec sa machinerie. Et là, les bleus arrivaient au pouvoir, c'était l'entrepreneur bleu, mais la même machinerie, le même bulldozer parce qu'il se vendait.
Mais oui, bien sûr.
Écoutez, ça se lit, même les choses les plus sérieuses se lisent avec autant d'intérêt. Donc, déjà, il faudrait lire ce livre parce qu'il raconte de 1955 à presque aujourd'hui l'histoire du Québec.
Ouais.
Et deuxièmement, sa méthode, ce qu'il met là-dedans, ce qui nous tient en haleine, enfin, ce qui m'a tenu en haleine, c'est la méthode Garon. Pour tout expliquer, Garon, ce n'était pas un agriculteur. Et quand il a été nommé ministre de l'Agriculture, les gens
trouvaient ça
drôle. Mais c'est un bonhomme qui avait donc un diplôme, qui a enseigné l'économie, qui était avocat. Et c'est un homme sensé. C'est un bonhomme qui plaisait aux gens parce qu'il était simple, il est chaleureux, mais c'était pas un fou. Et René Lévesque lui a demandé de prendre le ministère de l'Agriculture parce que on lui avait conseillé de prendre quelqu'un qui n'était pas agriculteur, qui n'était pas fermier, mais quelqu'un, parce que c'est important l'économie, les lois sont compliquées en matière agricole, mm-hmm. et il faut gagner le référendum. Alors, je te nomme le ministre de l'Agriculture, et puis, rends mm-hmm. les agriculteurs heureux. Alors, pour dire, hein, on n'a pas besoin d'être médecin pour diriger un hôpital.
Hein? c'est pas vrai.
Non, excusez-moi. Vous allez couper au montage.
Non, pas du tout. C'est parce que tantôt, j'ai tellement failli le dire. Alors, je suis contente parce que c'est vous qui l'avez fait. C'est François Côté qui nous a parlé, qui nous a pété le minutage. Et ce n'est absolument pas grave parce que vous êtes aussi passionnant que Jean Garon. Lorsque vous parlez de ce livre, pour tout vous dire, je pense que ce que l'est Jean Garon dans cette autobiographie. Merci beaucoup, François. Donc, vous êtes passionné par ce bouquin-là.
Moi, j'ai passé de très beaux moments à lire ce livre et je suis sûr que les gens passeront beaucoup de bon temps à l'écouter.
Et on vient de passer un excellent moment, votre compagnie, merci. Sur Canal M à l'émission Livre Découvert. C'est un rendez-vous. Je veux vous revoir à cette table-là, François. Bon. François Côté. Merci beaucoup, François.
De bouche à oreille, une page de littérature.
Vous le savez, si vous êtes des fidèles de cette émission, c'est maintenant l'heure de la bande-annonce de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je suis très heureuse de vous faire savoir qu'Alina Postolska sera à l'émission pour présenter le livre qu'elle a rédigé suite à un long, très long échange avec Jacques Languirand. Cela donne Jacques Languirand, Le cinquième chemin. Vous savez, quand j'annonce comme ça quelque chose, je me dis, oh mon Dieu, pourvu que ce soit vraiment faisable et que tout se déroule bien parce que, Alina Postolska, qui a écrit ce livre, est quelqu'un de quand même passablement occupé. Mais oui, elle sera là, il n'y en a pas de problème. Alors, si on regarde un petit peu ce livre-là, Jacques Languirand, Le cinquième chemin, très attendu par les gens qui ont écouté par quatre chemins si longtemps sur les ondes de Radio-Canada. Ce livre, il y a ces mots... On pourrait commencer par ces mots-là, qui sont ceux-ci. « Je suis fatiguée, je vous aime et je ne vous oublierai jamais, mais je m'en vais. » Et ces paroles, ce sont les dernières que Jacques Languirand a prononcées au micro de Par quatre chemins le 1er février 2014 et qui marquent le terme d'une étape entamée 43 ans plus tôt. Alors, loin de préfigurer une fin triste et solitaire, elle témoigne plutôt d'un désir de recueillement, d'un besoin de faire le point sur l'expérience de toute une vie. Alors, du fond de la caverne d'Ali Baba qui lui tient lieu de bureau, de janvier 2013 à juillet 2014, Jacques Languirand a choisi de se confier à Alina Postolska. Et au fil de leurs rencontres hebdomadaires, l'écrivaine a vu s'ouvrir des lucarnes ensoleillées, radieuses, dans un esprit parfois embrumé par la maladie. Reposant sur une profonde introspection et un méticuleux travail de journaliste, ce livre est le fruit de leurs échanges. Loin des clichés du personnage public flamboyant, on y découvre l'envers de l'image, la vérité d'un créateur habité par la mission que les hasards de la vie lui ont confiée, transmettre, éclairer, élever. Voyage dans le temps et la mémoire d'un être d'exception. Cet ouvrage emprunte un chemin difficile mais pourtant essentiel, celle qui mène au cœur même de l'homme. Si certains se demandent qui est Alina Postolska, c'est une historienne de formation. Elle est écrivaine, elle est journaliste, animatrice, productrice de spectacles et conférencière. Voilà. Et puis depuis 1987, elle a quand même publié une trentaine d'ouvrages, dont plusieurs ont été traduits et plusieurs sont disponibles en livres adaptés. Notamment son roman jeunesse, un été d'amour et de cendres, est paru chez Leméac en 2012. Il a remporté le prix du gouverneur général et c'est un livre qui est également disponible au SQLA. Un tout petit extrait de ce livre, Jacques Languirand, Le cinquième chemin, c'est Jacques Languirand qui parle, qui dit « J'ai appris des Français à être Français ». C'est son analyse. La politesse, la prépondérance de la culture, la rigueur dans le traitement de l'information, le vouvoiement systématique, pour la première fois de ma vie. L'accent pointu. Tout ça ne m'a pas apporté que des facilités au Québec. Au contraire, ça m'a créé des difficultés. Quand je suis revenue à Montréal, je n'étais pas chez moi, je n'étais plus ici. J'étais trop différent et d'une certaine façon, je le suis toujours resté.
Quelques nouveautés en rafale.
Le prochain départ pour Londres se fera dans 5 minutes.
Je vais à Londres, je voudrais faire du cinéma.
Et dans ces rafales, j'ai envie de vous présenter tout de suite le roman de René Martel, signé Daniel Lorrain. René Martel, une des plus grandes stars du Québec, chantant depuis l'enfance avec son père, Marcel Martel, l'un des pionniers du western, bien sûr. Elle s'impose dans les années 60 comme icône de la pop avec les hits Liverpool et puis Je vais à Londres, dont on vient d'entendre un court extrait. Elle reviendra ensuite à ses racines country avec Un amour qui ne veut pas mourir. Et en 83, c'est son album C'est mon histoire qui lui vaudra un premier Félix. Ce livre aussi, c'est le livre d'une femme qui a mené plusieurs combats contre l'alcoolisme, la dépression, une maladie grave pulmonaire, un cancer du foie. Et à l'image du phénix qui renaît de ses cendres, René Martel porte sa vie à bout de bras. Comment, jusqu'à quel point sa sensibilité exacerbée fait d'elle l'artiste qu'elle est? C'est la question que s'est posée notamment Daniel Lorrain. La femme et la star sont-ils des vases communicants? Sont-elles des vases communicants ou pas? C'est le point de départ du roman de René Martel, écrit par Daniel Lorrain. J'essaierai à un moment donné ou à un autre d'avoir ici même en studio et René Martel et Daniel Lorrain. Caprice de la reine de Jean Echenoz, Echenoz. Il s'agit de 7 récits qui se déroulent dans 7 lieux différents, un parc, un pont, un fond sous-marin, le Suffolk et la Mayenne, Babylone et le Bourget. Je n'en sais pas beaucoup plus sur ce livre-là, mais j'ai quelques critiques que j'ai trouvées dans la presse, notamment celle-ci. Autant d'idées fixes suivies avec la perfection formelle qui caractérise Jean Echenoz. Dans Actualité, c'est un fourre-tout cohérent où l'on voit que l'on peut passer d'Hérodote en goguette à Babylone, au sous-marin et au pont suspendu sans grande difficulté, à condition de s'appeler Echenoz, bien sûr. Un petit extrait. Et à nos pieds, déroulé sur la terrasse, gît un tuyau d'arrosage orange comme un serpent laissé pour mort et le long duquel un peuple de fourmis circule abondamment en deux sens, chacune tenant la plupart du temps sa droite comme sur une route classique. Le trafic de ces fourmis est fort dense, qui doit relier leurs dortoirs proches du chantier de construction à leurs divers ateliers, silos de grains, champignonnières, laboratoires de ponte ou étables à pucerons. S'arrêtant brièvement en se croisant, les ouvrières procèdent alors à un rapide contact frontal, histoire d'échanger un baiser subreptice ou se rappeler le mot de passe du jour, à moins que ce ne soit pour ricaner en douce du dernier caprice de la reine. Je n'ai plus peur de Jean-Claude Guillebeault. Ça, c'est un livre que j'ai lu et vraiment, c'est un livre qui fait du bien à l'âme, je vous le dis. Pourquoi le nierais-je, écrit Jean-Claude Guillebeault. L'optimisme têtu qui éclaire ma vie n'est pas une donnée naturelle ni un privilège de naissance. Longtemps, j'ai été habité par des peurs. De loin en loin, elles me narguent encore comme des ennemis tenus à distance. Et si je les évoque ici, dit M. Guillebeault, c'est tout simplement pour raconter comment j'en suis venu à bout. Aujourd'hui, une joie m'habite et me fait tenir debout. Il me semble urgent de partager cette leçon apprise en chemin. L'espérance fait reculer la peur. Toujours. Guillebeault, ça s'écrit G-U-I-2-L-E-B-A-U-D. Un petit extrait. Je n'ignore pas qu'au bout du chemin, une grande peur m'attend qui ne ressemble à aucune autre. Je sais d'avance que cette peur aura le dernier mot. Toute la question est de savoir comment nous cheminerons vers elle. Pourvu que, comme Blanquette, la petite chèvre d'Alphonse Daudet, je tienne jusqu'au matin, pourvu que je reste vivant jusqu'au bout. La promesse de Michel Ouimet. Louise est une journaliste qui couvre les conflits en Afghanistan. Sa meilleure amie, Carole, est chef de cabinet du maire de Montréal. Louise est en couple, elle a toujours refusé la maternité. Quant à Carole, veuve depuis quelques années, elle se sent de plus en plus tourmentée maintenant qu'elle approche de la quarantaine par l'idée d'avoir des enfants. Et au cours d'une mission à Kaboul, Louise fait la connaissance de Soraya, jeune afghane mariée de force qui a fui un époux violent. Elle habite dans un refuge tenu par Farida, qui se bat pour toutes les victimes de crimes d'honneur. Touchée par le courage des deux femmes, par la détresse de Soraya, Louise promet d'aider celle-ci. Elle lui promet de la soutenir lorsqu'elle se réfugiera à Montréal. Et c'est à cause de cette promesse que Soraya, pour la première fois de sa vie, quitte son pays, sa culture, pour faire la longue route qui l'amènera vers un autre monde où elle pourra enfin aimer et vivre librement. Il y a un lecteur qui a écrit « Il faut lire ce livre pour comprendre un peu la vie de ces femmes enfermées dans un monde patriarcal et surtout très fermé, pour comprendre toutes les exigences du travail des journalistes qui vont dans ces pays en guerre, pour nous faire comprendre ce qui se passe et qui voient ce que nous ne voyons pas et qui subissent les chocs que nous ne subirons pas. » C'est signé Michel Ouimet, O-U-I-M-E-T, une autre que j'aimerais bien recevoir un de ces jours. Et puis, oh tiens, juste pour le sourire, procurez-vous donc « Mais qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ?» C'est de Sonia Liubormisky. C'est une scientifique diplômée et elle dit « Savez-vous qu'on est en moyenne plus heureux à 60 ans qu'à 20 ans ou à 30 ans ?» Ce livre bouscule bien des idées reçues. Ni l'amour, ni la réussite professionnelle, ni l'argent ne peut nous rendre heureux. Alors qu'est-ce qui nous rend heureux ? Eh bien, ouvrez ce livre-là. Voilà, c'était l'émission Un livre découvert animée par Clotilde Seille. Je voudrais remercier mes invités Michel Langlois, Catherine Voyer-Léger, François Côté et aussi Jean Brière pour sa touchante lettre aux bénévoles qui donnent leur voix. Remercier aussi bien sûr Jean-Sébastien Laliberté. Vous souhaitez, plein de bon temps avec les livres que nous enregistrons pour vous. À bientôt.